Vous écoutez Radio FMR, nous sommes le samedi 5 février 2011. Nos programmes pour cet après-midi, à 13h du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie, à 15h du reggae avec Zama Farai, et à 17h, FMR cède l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici le dessin animé asiatique que vous attendez tous.
Précédemment, dans le supplément week-end.
Ben Thomas, du coup, tu es en train de galoper ?
Pas encore, on est encore à l'Hôtel Mercure, on vient de finir une émission sur une radio concurrente. Et voilà, donc nous étions en présence des 5 jeunes élus du Conseil général de Charente avec...
Radio FMR présente... Le supplément week-end... Le magazine des cultures geeks avec du sport, Ultimatum, Dastrich et la participation exceptionnelle de JB.
Bonjour et bienvenue, bonjour, j'espère que vous allez bien. Du Thomas, il est revenu à moitié essoufflé. C'était loin, hein, depuis Angoulême, malade. Surtout que ça s'est ballonné et tout ça.
Ah oui, en courant, ça fait loin.
Ouais. Ça fait loin. Du sport, lui, il est là, il est encore en train de pleurer. Oh, non, John Barry, non, ça, on verra ça tout à l'heure. Et d'ailleurs, à 15h, je me suis trompé en rédigeant le programme. C'est une autre émission.
Ah oui. Dirty Dancing, donc à 15h, ils sont en alternance avec John O'Dead, l'émission de reggae. Mm-hmm. Donc,
on n'a toujours pas la grille.
Là, c'est leur tour, donc ça tombe bien. Ils nous feront un spécial John Barry.
Ça tombe bien, on les a bien briefés. Et nous avons sur le plateau Marie Vassor. Marie, bonjour.
Bonjour.
Tu es donc l'actuelle responsable du cinéma Le Central qui est à Coulommiers.
Exact.
Voilà.
Maintenant, et... 4 mois.
Et nous te recevons, donc c'est à l'occasion du festival Made in Asia qui a lieu en ce moment à Toulouse et dont Radio FMR est partenaire. Ça a commencé hier très fort avec la retransmission du concert de Kenichi. Non, pas de Black Vases, merci. C'est l'artiste techno-japonais qui était hier en représentation bikini. C'était pas la première fois qu'il venait, d'ailleurs. Qui a toujours ce côté très éthéré.
C'est quoi, de l'électro ? C'est...
Non, techno pur et dur, où il mélange à la fois, je vais dire, les sons traditionnels et à la fois... Tiens, j'aurais dû amener... J'ai 2-3 disques de lui.
C'est malin.
Voilà, et ça fait partie donc du festival Made in Asia, qui en est à sa... Quatrième, ouais, c'est ça, hein. C'est la quatrième édition, dont le pays invité cette année, c'est la République de Corée, celle du Sud, la République démocratique oligarchique.
Tu peux dire la Corée du Sud, hein, ça sera plus simple.
Ce sera plus simple, je pense, pour tout le monde, ouais, peut-être.
Ouais.
Voilà, et donc, justement, le festival de Coulommiers va passer un dessin animé sud-coréen, puisqu'ils ont une industrie du dessin animé qui est assez importante, qui a notamment travaillé comme sous-traitant du voisin japonais et tout ça, mais ils ont quand même des réalisateurs vraiment talentueux de ce côté-là. Et aussi une industrie du dessin animé en Corée du Nord, mais ça, je crois pas que ça soit le thème, avec des dessins animés assez décapants, hein. Le coup du... je le mettrai, il y a un dessin animé qui circule sur YouTube qui explique aux petits gamins qu'il faut apprendre la géométrie. Ça t'apprendra à bien utiliser les canyonnaires le jour où les États-Unis débarquent. Ah ouais, d'accord, oui, puisque la Corée est un pays qui est divisé en deux. Faut pas oublier que la plus grosse base américaine en dehors des États-Unis n'est pas en Europe, n'est pas en Irak, n'est pas en Afghanistan, mais en Corée du Sud. Et avec l'actualité très récente, je veux dire, géopolitique qui se passe en ce moment avec une guerre des successions larvées, Corée du Sud est elle aussi un petit peu en sphère sur le champ de bataille. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des très beaux contes dont on va parler.
Ils ont aussi... Merci, tu as parlé très bien de Made in Asia. Merci Marie, au revoir.
Merci. Il n'y a pas que ça. Hein. Oui, non, mais tu peux parler aussi des polars qu'ils font là-bas et tout le reste. Il n'y a pas que ça à Made in Asia, puisqu'il y a aussi des conférences sur la médecine traditionnelle asiatique. Il y a aussi des cours de cuisine. Il y a aussi des visites guidées spécifiques, d'ailleurs, je crois, au musée Georges Labitte. pour ceux qui ne sont pas à Toulouse, ça n'est pas une occasion pour parler d'organes sexuels. C'est vraiment le nom de l'ethnologue.
Non, mais c'est marrant parce que tu l'avais déjà préparé la question, enfin cette blague pendant qu'on préparait l'émission au téléphone, et en fait tu as persisté, tu as signé.
Bah, t'as vu qu'elle était dans le, qu'elle était à la ligne, à la page 40.
Non, mais je les lis pas tes conducteurs. Hein. Y a, moi, je les retiens de tête.
D'accord. Bah alors présente l'invité. Dans ce cas-là, je te prie.
Justement, c'est elle qui va se présenter elle-même. Donc Marie, bon, on a déjà dit que tu étais responsable du cinéma central de Colomiers, et tu nous as appris juste avant le ON que ça faisait 4 mois que tu étais responsable de ce cinéma. Oui. Donc est-ce que tu peux te présenter et décrire surtout en quoi consiste cette activité d'être responsable d'un cinéma?
Oui, alors en fait, donc effectivement, ça fait 4 mois que je suis au cinéma de Colomiers, mais je connaissais déjà quand même un petit peu le festival Made in Asia, étant donné que précédemment je travaillais aussi au cinéma de Ramonville. Ramonville qui a pas mal d'attaches avec tout ce qui est asiatique, chinoiserie et en l'occurrence l'association Chin Chin qui organise le festival Made in Asia.
Et tu étais responsable du cinéma de Ramonville aussi ou tu...
Non, j'étais pas responsable, j'étais assistante de direction, donc c'est un cinéma associatif et principalement géré par des bénévoles, et moi j'étais en fait la seule permanente du cinéma, donc je m'occupais un petit peu de superviser tout ce qui était décidé par le conseil d'administration du cinéma.
Et Ramonville, c'était pas dur la concurrence du multiplex à côté Utopia?
Alors justement, non, aujourd'hui...
Oh mince, je voulais essayer de la caser quand même.
Non, mais par contre, t'as la belge à côté qui est pas...
Voilà, à côté de Ramonville, c'est plutôt le gros Gaumont, la belge. Donc là, il n'y avait pas vraiment de concurrence, étant donné que le cinéma de Ramonville...
C'est pas du tout la prog.
Voilà, le cinéma de Ramonville, c'est un cinéma associatif à réessai. Donc là, de ce côté-là, les gens faisaient assez rapidement leur choix. Et c'est vrai qu'à Colomiers, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on est entouré par le CGR de Blagnac, Utopia de Tournefeuille. Donc nous on fait une programmation, on essaie d'avoir une ligne éditoriale assez, assez variée, et ce qui nous permet d'expliquer aux gens qu'ils font leur choix, si pour eux c'est plus pratique d'aller à Colomiers ou si au niveau des dates c'est plus pratique d'aller à Colomiers. On essaye d'apporter un service de proximité aux gens, plus qu'une démarche de concurrence.
On va expliquer un petit peu Colomiers quand même pour ceux qui nous écoutent, qui sont largement en dehors de Toulouse. C'est une grande ville de banlieue entre guillemets.
C'est la deuxième ville de Haute-Garonne.
Voilà, qui est juste au nord, qui est accolée aux usines Airbus et dont la mairie a une partie de la taxe professionnelle, ce qui leur permet de financer énormément de choses au niveau culturel.
Plus bientôt justement.
Hélas. Colomiers était très connu aussi pour ses particularismes, comme ses ronds-points inversés qui faisaient la fortune des ferrailleurs.
Pour son festival bande dessinée, son équipe de rugby.
Oui, aussi, oui.
Et son cinéma.
Et voilà, maintenant on y vient. Maintenant on y vient. Donc, est-ce que c'est une programmation sur laquelle tu as vraiment, enfin, de ce que tu peux dire dans l'immédiat, une réelle liberté, où il y a quand même relativement des choses à rendre compte auprès de la mairie?
Non, absolument pas. La mairie me laisse complètement libre de notre programmation, que ce soit la participation à des festivals ou la programmation hebdomadaire des films d'actualité. Donc de ce côté-là, c'est vrai que c'est très très agréable d'avoir cette liberté. Voilà, c'est vrai que c'est quelque chose... qui tient vraiment à cœur à la mairie de participer à des festivals locaux, de participer à... C'est un festival qui prend de l'ampleur et c'est vrai que ça fait partie des missions de notre cinéma. C'est-à-dire qu'encore une fois, nous on essaye de proposer aux gens de venir découvrir des films divers, variés, près de chez eux. Le but, c'est que les gens n'aient pas à traverser toute l'agglomération pour pouvoir trouver les films qu'ils ont envie de voir dans le programme du festival. Donc nous, on fait en sorte de leur apporter des films asiatiques, des films pour les enfants, des films pour les plus grands, pour que ça reste près de chez eux.
Et alors, comment ça se passe? C'est la direction du festival Made in Asia qui vous dit, bon, on serait bien plutôt dans ce genre-là, les films, ou alors c'est vous, spontanément, qui allez, bah, nous, on a ça. Ah mais non, mais c'est déjà passé par le cinéma côté, comment ça se passe?
Voilà, c'est ça. En fait, le festival Made in Asia nous donne les grandes lignes de l'édition à venir. Donc, en l'occurrence, cette année, c'était la Corée. Je crois qu'ils insistent bien d'ailleurs sur le fait que c'est la Corée et pas forcément que la Corée du Sud, même si la Corée du Nord n'est pas vraiment très représentée au niveau du cinéma.
Ils ont un cinéma fantastique là-bas. Ils kidnappent les réalisateurs japonais pour faire un film de monstres en Corée du Nord.
Non, par contre, il y a beaucoup de trucs à dire sur la culture de là-bas. Après, les films, je sais pas s'il y en a beaucoup qui ont passé la frontière.
En tout cas, en France, moi, j'en connais pas. Mais c'est vrai que voilà, donc le festival nous donne un peu les lignes, les grandes lignes du festival, en nous disant vous vous y collez ou non, à partir du moment où vous faites effectivement une programmation innovante qui soit pas du réchauffé des années précédentes, faites-vous plaisir. Il se trouve que pour les cinémas, enfin en tout cas les cinémas que je connais, que ce soit les cinémas ABC, Blagnac, Oziel, Ramonville, etc., eux tous ont sauté sur l'occasion parce que le cinéma coréen est d'une telle richesse qu'on s'est tous dit « Youpi, on va enfin pouvoir passer des grands films, peut-être un peu méconnus, mais du coup qui vont avoir un bon coup de projecteur cette année. »
Alors est-ce que pour contacter les ayants droit, les distributeurs, est-ce que tu as dû mettre en avant justement le fait de ce festival, faire appel aux organisateurs du festival comme caution, voire avec la Cinémathèque de Toulouse?
Non, parce que la plupart des cinémas que je viens de vous citer, à part le cinéma ABC, on est tous coprogrammés par une association qui est à Auch, qui s'appelle VO, qui est une entente de programmation et qui en fait nous facilite l'accès au film. Donc nous, on fait un peu une liste du Père Noël à cette entente de programmation. On dit qu'à telle date, on aimerait passer tel ou tel film en VO ou en VF. Et eux se débrouillent pour contacter les ayants droit directement et nous dire c'est bon, c'est pas bon. Donc c'est vrai que c'est assez confortable pour nous. Comme ça, nous, on vit ça comme une liste du Père Noël. Hein. On dit ce qu'on veut et on l'a.
Alors dans ce cas-là, qui t'a parlé de Père Noël, Marie? Je suppose que tu es cinéphage, sinon tu ferais pas ce travail.
Voilà.
Voilà. Quelle a été ta première émotion vis-à-vis du cinéma asiatique?
Clairement, Old Boy. Old Boy, Park Chan-wook, qui est le film qui a obtenu le Grand Prix du public à Cannes l'année où Tarantino était président du jury.
Grand Prix du jury parce que ça s'est discuté à quelques voix près avec le Fahrenheit 9/11.
Voilà, c'est ça.
Voilà. Et Tarantino était super fan du film.
Complètement, c'est un film à la Tarantino, mais asiatique, donc avec des codes qui sont pas forcément ceux qu'on a l'habitude de voir.
Oui, mais film sud-coréen, mais adapté d'un manga japonais, bizarrement. Ouais. Est-ce que tu es allé voir, puisque quand même il y a des BD tech assez importantes à Colomiers. Oui. Est-ce que tu es allé le chercher pour voir un petit peu?
J'avoue que non, je suis restée sur la claque que je me suis prise à Cannes quand j'ai découvert ce film sans du tout savoir ce que j'allais voir. J'avoue que
bon, tu l'as découvert à Cannes.
Oui.
Ah ouais.
Ouais ouais. Donc il n'y avait pas encore eu la publicité autour du film, Park Chan-wook c'était encore un nom complètement inconnu pour moi, alors que maintenant c'est quand même la star nationale et internationale. Voilà, je savais pas trop ce que j'allais voir et pour moi ça reste la référence.
D'accord, et c'était la première claque asiatique tout court ou sud-coréenne?
Là comme ça je dirais que c'est quand même la claque asiatique. D'accord. Qui fait qu'ensuite je me suis intéressée au reste de la production de cette région. Ouais.
D'accord. Alors avant de parler spécifiquement de Made in Asia, moi j'ai une question toute bête. Est-ce que diriger un cinéma, ça laisse le temps pour voir paradoxalement des films? Est-ce que les films que tu vois, tu vas les voir à la télé, en DVD? Est-ce que tu vas voir tes petits copains, autres cinémas de la région pour voir ce qu'ils programment aussi?
Alors dans mon cinéma, j'ai malheureusement assez peu le temps d'aller voir des films parce que soit je suis dans les coulisses en train de préparer les programmes des semaines suivantes pendant que les films tournent. Le soir, du coup, j'essaye de faire une petite coupure pour essayer de maintenir à peu près une vie familiale. ce qui a été mis en place, entre autres, par la CREAMP. La CREAMP, c'est l'antenne régionale de l'Association des cinémas d'art et essai sur le Midi-Pyrénées, la région Midi-Pyrénées. Ils organisent tous les deux mois à peu près, des visionnements qui sont réservés aux professionnels. Et donc là, toutes les salles de la région qui sont adhérentes à cette association peuvent aller passer une journée entière à visionner des films en avance et du coup savoir si on peut les diffuser, si ça présente un intérêt, si notre public risque d'accrocher, si on peut même essayer d'organiser une rencontre avec le réalisateur si on a vraiment eu un coup de cœur. Et donc là c'est des journées qui moi m'emballent, m'enchantent parce qu'on reste enfermé dans le cinéma du matin 9h jusqu'au soir 22h, on voit 6 films d'affilée et là c'est pour moi c'est du bonheur.
Et là vous vous battez comme des chiffonniers à savoir qui c'est Prums, c'est moi le premier? Non
ça va, on arrive à être quand même à garder notre sang-froid et
ou peut-être à négocier justement pour payer la venue de l'auteur.
Exactement, on arrive à se mettre d'accord sur deux ou trois salles pour négocier l'avenue d'un réalisateur. On essaye aussi, alors parfois c'est des films qui sont tirés à très très peu de copies sur toute la France, mettons 5 copies, ce qui veut dire qu'il y a 5 cinémas dans toute la France qui pourront passer ce film-là sur une semaine donnée.
Ce qui veut dire aussi que la copie sous-titrée vaut extrêmement cher, voilà. Plus cher que les copies qui sont dispo dans les multiplex.
En fait, c'est pas tout à fait une histoire de prix, mais vraiment une histoire de disponibilité. C'est-à-dire que les films, nous, on nous les prête, entre guillemets, oui, oui. Et puis on reverse une partie, un pourcentage aux ayants droit. Donc c'est pas trop une histoire d'accessibilité au niveau argent, mais vraiment plus au niveau de disponibilité du film. Et quand un distributeur a pas beaucoup de moyens, sort son film à très très peu de copies, bah, il faut attendre notre tour et on attend. Donc c'est vrai que parfois quand on a eu des réels coups de cœur tous ensemble comme ça à des visionnements, on essaie de se mettre d'accord pour partager le film. Donc sur une semaine d'ailleurs, c'est ce qui se passe là sur un des films de Medinazia, on a une seule copie du film. Donc on se partage le film entre trois salles, on fait une séance chacun sur la même semaine pour essayer de l'avoir pas trop tard, parce que c'est vrai que si on l'a au mois de juillet quand tout le monde est en vacances en dehors du festival Medinazia, on n'est pas sûr d'attirer du monde.
On va peut-être aborder les films en question qui sont projetés dans le cadre de Medinazia.
Ouais. Est-ce que en dehors de ta programmation, est-ce qu'il y a des films que tu regrettes que ça passe ailleurs parce que tu seras occupé, tu pourras pas aller le voir?
Justement, Old Boy, je l'aurais bien revu sur grand écran, mais il passe à la Cinémathèque. Donc là, condition optimale, c'est, je crois, quand même une des meilleures salles au niveau technique, au niveau confort. Donc la Cinémathèque, je pense que vous pouvez vous y ruer et aller voir tous les bons films qui repassent là-bas. Il y a aussi Ivre de femme et de peinture, qui est un chef-d'œuvre.
Avec le même acteur.
Avec le même acteur, ouais. Donc,
meilleur acteur du monde, de toute façon.
Mais c'est incroyable, cet acteur, ce qu'il est capable de faire.
Dans un film qui est projeté dans ton cinéma, d'ailleurs, qui sera parmi les trois.
Aussi, exactement. J'essaie de rester fidèle. Ensuite, il y a aussi un autre film qui est Printemps, hiver, automne et printemps.
Oui.
Voilà, qui est aussi un autre film que j'avais adoré à l'époque. Et tous ces films-là sont, entre guillemets, anciens, c'est-à-dire qu'ils ont plus de 3 ans, je crois, pour la plupart, 3 ou 4 ans, et du coup, sont tous visibles à la Cinémathèque et pas dans les autres cinémas. Mais ça fait vraiment partie des films. Je pense que si on veut commencer à parfaire sa culture cinématographique coréenne, il faut commencer par ces trois-là.
Alors, ce qui est frappant, c'est que les deux films, donc Ivre de femme et de peinture et Printemps, été, automne, hiver, c'est le même réalisateur, je crois, c'est Kim Ki-duk.
Exactement.
Ah, donc, c'est les deux facettes du cinéma coréen. Plutôt les fans de cinéma de genre, c'est plutôt Park Chan-wook.
Voilà.
Et l'autre cinéaste star actuel, c'est Kim Ki-duk pour plus autorisant et arrêté. En fait.
Et je pense aussi à Locataire qui est magnifique. C'est... Et aussi de Kim Ki-duk et aussi à la Cinémathèque. Ils ont vraiment une très très bonne programmation, mais eux auront accès aussi à des films différents parce qu'eux ils n'ont pas une démarche on va dire quantitative du nombre de spectateurs qu'ils vont faire sur ce festival et ils peuvent repasser des classiques, des vieux films plus sereinement. C'est vrai que nous on a quand même des exigences du public qui dit bon d'accord, Locataire on l'a déjà vu, maintenant on aimerait savoir ce qui se fait de nouveau.
Alors, tu nous as beaucoup fait la publicité de la Cinémathèque. On va maintenant parler du central.
Oui.
Donc, déjà, alors, tu programmes 3 films dans le cadre de Medinazia. Alors, déjà, pourquoi seulement 3? Est-ce que c'est un pourcentage par rapport au reste de la programmation?
Non, malheureusement, parce qu'on n'a pas des séances extensibles et que on a la chance déjà d'avoir 2 salles, ce qui est un luxe par rapport à beaucoup d'autres salles de la périphérie toulousaine, mais simplement parce qu'on a d'autres films d'actualité à ce moment-là, qu'il faut faire la place à tout le monde. Donc on part du principe que les réels fans et les gens qui sont réellement attirés par ce cinéma, ou en tout cas pour le découvrir, vont faire en sorte de venir sur chaque séance, enfin sur ces séances-là bien particulières, et que c'est des séances qu'on a annoncées de longue date. Je pense que les gens ont pris date, ont pris rendez-vous, et on espère qu'ils seront là sur ces trois films. Mais bon, on a essayé de les choisir quand même du mieux qu'on a pu.
Donc là, on va entrer dans les détails de ces films. Donc, on parlait de Shaun Missick, donc on va parler du film dans lequel il joue.
Mm-hmm.
Ah, donc, c'est Destination Himalaya,
oui.
Et qui est un film sud-coréen.
Qui est un film sud-coréen qui est sorti en novembre 2010.
Donc, c'est tout frais.
Qui est un des plus récents, qui soit sorti ces derniers temps. Et c'est un film, en fait, tourné à la façon d'un documentaire. Donc, c'est assez troublant.
C'est un documentaire, quoi.
C'est un fictionmentaire.
Voilà, et pas un docu-fiction, attention.
qui part du vécu du réalisateur. C'est-à-dire que le réalisateur est parti, comme le font souvent des artistes, seul, son sac à dos et ses baskets au Népal. Il est parti marcher pendant des jours et des jours, jusqu'au jour où il est tombé sur un village complètement perdu avec des gens d'une générosité apparemment irréelle, surréelle. Enfin, il s'est demandé où il était tombé et il s'est dit qu'évidemment son nouveau film, son prochain film devait avoir lieu dans ce village-là. Et donc c'est ce village qu'on voit dans ce film. Avec donc les figurants sont réellement les villageois de cette région et il y a toute une espèce de quête initiatique de rédemption un petit peu qui arrive dès le début du film et voilà, c'est vrai que c'est un petit peu un autoportrait peut-être du réalisateur joué par le personnage principal.
Et c'est pour les adeptes des super paysages, puisqu'en plus dans l'Himalaya, donc on va voir des montagnes et tout en grand écran.
Ouais, complètement. Ça fait partie de ces films qui peuvent pas être découverts à la télé. Il faut absolument voir sur grand écran, dans le noir. Et c'est vraiment un voyage incroyable.
Donc peut-être le prochain format de Rendez-vous en terrain connu de Frédéric Lopez.
Non, mais il y a beaucoup de quêtes initiatiques qui se déroulent au Népal. Il y a aussi du cinéma pour enfants à côté.
Ça, c'est la dernière séance, c'est cet après-midi justement.
Ah, mais heureusement.
Donc il faudrait manger assez vite pour pouvoir être à l'heure. Donc c'est cet après-midi à 14h30. Marie Yagi, c'est aussi un film emblématique du cinéma d'animation coréen, sud-coréen en l'occurrence. C'était un film qui avait gagné à l'époque le Grand Prix à Annecy. Et le festival d'Annecy, c'est le festival référence internationale d'animation. Il avait complètement séduit le jury à l'époque. Il a séduit l'association des cinémas d'art et essai de France qui a soutenu le film depuis le début, qui continue à le soutenir en diffusant régulièrement des petits documents pour faire la promotion de ce film qui finalement est assez intemporel. Et du coup, qui peut ressortir et reséduire les nouvelles générations d'année en année.
Donc c'est un film qui est visible pour les petits dès 6 ans,
oui.
Enfin petits et grands,
oui.
Qui est sorti donc en 2002,
exact.
Et avec un graphisme qui est particulier, mais qui correspond pas aux normes en général, mais qui...
aux normes. Non mais tu m'as fait sursauter là.
Quoi?
Qui est graphiquement innovant.
C'est un graphisme qui sort de l'ordinaire, voilà. C'est ce que je voulais dire.
Ce que le réalisateur explique d'ailleurs, c'est qu'il a parcouru pendant 6 mois les plaines et les montagnes coréennes pour prendre des photos. Je ne sais pas combien, je pense qu'à l'époque ça devait être encore avec des pellicules et je ne sais pas combien de pellicules il a pu ramener de son voyage. Et il a en fait essayé de retranscrire les paysages, les ports de pêche, les montagnes, les prairies qu'il a pu voir pendant son voyage. Je crois que c'est un film qu'il a mis, plus de 3 ans à réaliser. C'est ça fait partie de ces films à voir sur grand écran, même pour une première expérience pour un enfant, de voir tous ces paysages, on a l'impression de voler avec les oiseaux, c'est vraiment très très beau aussi.
Et enfin le troisième film donc, qui va faire plaisir à notre ami du sport.
Juste une chose, parce qu'il y a marqué dès 6 ans, le film est disponible en VO ou en VF?
Il est en français, en version française.
Il a été doublé, d'accord.
Oui.
Et donc maintenant on va aborder un côté plus dansant du sport. Ouvre tes mirettes puisque ça va te plaire. Donc c'est un film bollywoodien.
Ça me tenait vraiment à cœur.
Ah, ben voilà.
Je suis assez fan de cinéma Bollywood.
Je vais te laisser prononcer le titre d'ailleurs.
Oui, Savoiria. Bien sûr. Et en fait, c'est vrai qu'on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire d'un petit peu innovant, qui change un petit peu. Et on s'est dit que l'Inde, finalement, était aussi en Asie. Géographiquement, en tout cas, c'est en Asie. Donc, lançons-nous et proposons un film Bollywood. Donc là, c'est pareil. C'est un petit peu une expérience qu'on essaye, qu'on tente. J'avoue que je ne sais pas du tout comment va réagir le public, parce que c'est quand même un public bien ciblé. Les gens qui sont prêts à venir passer 2h30 ou 3h dans une salle de cinéma cinéma pour un film indien. Il se trouve que là, on a quand même essayé de prendre le film le plus court possible, qui ne fait plus que 2h20.
Oui, là, c'est un court-métrage, là. Hein.
Voilà.
Ouais, parce qu'en général, ça dure 4h, 4h30, 5h, mais c'est coupé en deux, et les gens sortent du cinéma pour manger et tout ça. Donc ça n'aurait pas été une expérience compatible avec ce que les gens croient de l'expérience cinéphilique en France.
Après, ce que je me dis, c'est que si ça prend, si les gens adhèrent, si les gens viennent éventuellement même de loin pour voir ce genre de film chez nous, l'année prochaine, on se fera encore plus plaisir, on passera des films de 3h, 3h30 et on pourra là, du coup, peut-être envisager l'entracte, le côté festif du film Bollywood.
Pendant ce temps, du sport a fait le tour du studio pour regarder les références du film sur la feuille.
Bachchan, bon allez, il va se démerder.
Alors, je t'ai fait prononcer le titre, mais je vais quand même mentionner le réalisateur. Ça va être dur. Alors, c'est un film de Sanjay Leela Bhansali. Voilà, c'est le réalisateur de Devdas. Que du sport a peut-être vu. Voilà, il nous fait un gros signe que c'était cool.
Avec grand. Soniam Kapoor, Ranbir Kapoor, ça va quoi. C'est les grandes stars. Sur toute cette programmation, est-ce que tu penses que justement le festival Made in Asia va aider le central de Colomiers à avoir un public qu'il n'a pas d'habitude, c'est-à-dire soit qui vit à Colomiers, soit un public de cinéphiles qui ne sortirait pas de Toulouse ou qui irait dans d'autres salles?
Oui, bah déjà ça passe par leur programme. Ils ont dans leur programme, ils ont annoncé toutes les séances qui avaient lieu hors les murs. Donc sur je sais plus quelle page du programme, vous voyez les séances qui ont lieu à Colomiers, à Auziel, à Ramonville, au Rex de Blagnac, à la BC, à la Cinémathèque et au cinéma de Muret. Donc là, les gens peuvent exceptionnellement prendre leur voiture s'il y a vraiment le film qui les intéresse à cet endroit-là et pas ailleurs. Ils ont aussi le festival a aussi une page Facebook, comme il se doit, sur laquelle ils publient régulièrement les animations à venir, les soirées, les concerts, les stages, etc. Donc en temps voulu, ils diffuseront aussi les informations sur les divers cinémas qui participent. Donc oui, bien sûr, ils appuient, ils nous accompagnent, ils font notre promotion. Et nous, on fait la leur aussi, parce qu'on explique aux gens que si le film qu'ils veulent voir n'est pas chez nous, il sera ailleurs, ou les stages de cuisine, ou les stages de langue.
Il y a entre autres, puisqu'on parle un petit peu de l'art du conte et tout ça, il y aura toute une thématique qui est développée autour du pansori, qui est le chant traditionnel coréen accompagné au tambour, et en général c'est une voix féminine. Il y a une des grandes maîtresses actuelles justement de cet art traditionnel, Min Hye Song, qui sera en représentation mardi, c'est à Saint-Pierre-des-Cuisines, avec en plus la chanteuse de pansori, qui est un classique là encore sud-coréen. Est-ce que ça, sont des événements que tu vas essayer de voir justement de ce côté-là?
Ça, le pansori, ouais, ça m'attire beaucoup. C'est quelque chose que je connaissais pas. J'ai découvert en feuilletant le programme.
C'est un art quand même vocal assez exigeant. Ouais. Hein, il faut le signaler avec des vraies performances de ce côté-là.
Et assez rare. C'est le genre de concert qu'on n'a pas la chance de voir en Europe, en France, à Toulouse, qui plus est. Donc non, ça c'est quelque chose. Je me suis marqué la date d'une pierre blanche dans mon agenda. Ensuite, est-ce que il restera des places? Ça, je ne sais pas.
Alors cette année, la thématique c'est la Corée du Sud. Est-ce que les trois précédentes éditions, les thématiques, tu te souviens un peu de ce que c'était?
Alors l'année dernière, c'était le Vietnam. Ouais. Donc c'est pareil, là aussi c'est au niveau film, documentaire, musique, expo, c'est richissime. Et l'année précédente, en 2009, en fait, c'était pas vraiment un pays qui était invité. C'était trois thématiques un peu plus globales. Si je me souviens bien, c'était les paysages urbains. Donc là, avec tout ce qui est manga, urbanisation, etc., c'était aussi assez facile de pouvoir coller à ces thèmes-là. Je crois qu'il y avait l'eau et les images d'Asie. Donc avec les images d'Asie, je crois qu'il y avait une rétrospective sur les mangas, justement.
Et on remercie Thomas d'avoir réussi comme ça à ne pas faire son travail de documentation.
Oui, c'est vrai. Ouais. Non, mais alors tu disais que tu avais pris ta claque. Donc Oldboy était sorti en 2003, je crois.
Oui, exact.
Donc on est déjà en 2011. Est-ce que tu nous as dit que ton dada c'était aussi Bollywood et tout. Est-ce que tu t'es intéressé à d'autres formes de cinéma asiatique, la Beat Generation, les films complètement fous des Japonais. Est-ce que tu as vu un peu les films de kung-fu, les films d'arts martiaux, tout ça, les trucs un peu qui sortent un petit peu du
je veux pas passer pour quelqu'un de sectaire, mais j'avoue que les films de kung-fu, je préfère rester 3 heures à voir un film Bollywood qu'une heure et demie dans une salle de cinéma à voir du kung-fu. Bon, voilà, après, je dénigre pas du tout le genre.
Même des films bien délirants, je sais pas, comme Histoire de fantôme chinois, ou c'est plus quand même de la comédie que du kung-fu.
Je pense, j'en ai pas vu ni récemment, ni tout court, je crois, mais je pense qu'il faut vraiment être dans un contexte. Il faut vraiment être dans une soirée complètement délirante, dans un cinéma qui met les petits plats dans les grands pour passer une soirée complètement décalée. Ça m'attirerait, ça m'intéresserait. Là, comme ça, me louer un DVD de film de fantôme chinois, c'est ça ?
Ouais.
Non.
on a un peu parlé tout à l'heure, mais quel est le type de public du festival ? Est-ce que c'est plutôt familial des amateurs de plutôt art et essai ? Ou est-ce que ça brasse de tout ?
Je pense que ça dépend vraiment des films. Pour ce qui est jeune public, les films jeune public, on va se retrouver avec des familles qui sont attirées ou non par le genre art et essai, enfin par le cinéma art et essai. Et après, ça va vraiment dépendre. Je pense que Destination Himalaya, une quête initiatique dans les montagnes, ça va plutôt intéresser des gens qui sont attirés par un cinéma un peu indépendant et un peu intimiste. Les films Bollywood, je pense que là, ça va intéresser peut-être plutôt des gens, des groupes d'amis qui vont avoir envie de se faire bien rigoler un soir à regarder un film complètement kitsch. Je pense que c'est ça qui est intéressant dans un festival comme Edinasia, c'est que ça touche tous les publics, tout le monde y trouve son compte. Les gens qui sont pas intéressés par le cinéma vont avoir envie d'apprendre à faire des petits rouleaux de printemps avec un grand chef. Donc c'est vraiment un festival qui est pour ça très très intéressant et très éclectique.
Est-ce que tu peux nous dire les futures peut-être programmations qu'il y aura cette année? Est-ce que tu prépares des petites thématiques dans le cinéma Le Central, hors Made in Asia bien sûr?
Alors là au mois de mars, donc dès que Made in Asia se termine, on enchaîne sur le festival Les Rencontres des Cinémas d'Amérique Latine.
Ah oui.
Donc pendant 3 semaines on va passer plusieurs films, on aura même une rencontre avec un réalisateur mexicain qui viendra présenter son film en avant-première au mois de mi-mars. Ensuite nous ce qu'on essaye de faire c'est toujours soit coller à l'actualité d'un festival qui aurait lieu sur la région, soit essayer d'inventer des nouveaux concepts. Alors par exemple, pas plus tard que hier matin, on a innové avec des séances bébés. Donc là les gens venaient avec leur bébé, je crois que le plus petit avait 7 mois.
Oula.
Pas forcément pour que le petit voit le film, mais surtout pour que la maman en congé parental qui ne va plus au cinéma depuis qu'elle a eu un enfant puisse continuer à aller au cinéma.
Oui, du coup ils sont moins gênés par les cris et pleurs des bébés puisqu'ils en ont un dans les mains.
Exactement,
quoi.
Et ils se disent que ça sera peut-être leur tour d'ici 5 minutes. Donc,
peut-être qu'il va être impressionné, il va plus rien dire.
Voilà, non, mais en plus après il y avait des enfants qui étaient un petit peu plus grands, 2 ans et demi, 3 ans, qui étaient complètement captivés par le film. Donc ça fait partie des choses qu'on est assez content d'avoir mis en place. On est très content qu'il y ait eu du monde parce que du coup ça nous conforte dans nos convictions et on se dit qu'on va pouvoir le refaire.
Donc ça, ce sont des films normaux, sauf que les mamans peuvent venir avec des bébés.
Oui, bon, des films normaux.
Oui.
Là en l'occurrence c'était le film bébé qui avait été réalisé d'après une idée d'Alain Chabat. Et qui a complètement pris parce que les plus grands de 2-3 ans voyaient des bébés à l'écran, donc étaient super amusés, et les tout petits dormaient dans les bras des parents, donc voilà, il n'y avait pas de violence, il n'y avait pas de gros mots, tout le monde y a trouvé son compte. Ensuite évidemment au mois de novembre on participera au festival BD de Colomiers.
Oui.
Évidemment on passera certains films qui ont attrait à la bande dessinée, que ce soit une adaptation de film ou un film d'un ancien auteur de bande dessinée, comme par exemple l'avait fait Johann Sfar avec Gainsbourg. On va aussi essayer de proposer des débats, des conférences avec des réalisateurs qui sont passés de la BD au cinéma pour essayer d'échanger, qui nous expliquent comment ils ont fait, pourquoi ils l'ont fait. Donc c'est dans encore quelques mois, on est en train de préparer tout ça, mais en tout cas c'est des pistes et des envies qu'on a très fortes.
Comment se passe la direction avec l'équipe? Est-ce qu'il y a une différence vraiment entre le cinéma de Ramonville et le cinéma de Colomiers?
Oui, oui, c'est quand même très différent parce que le cinéma de Ramonville, c'est un cinéma associatif. Le cinéma de Colomiers, c'est un cinéma municipal. Donc il y a une direction des affaires culturelles qui chapeaute un petit peu tout ça. Donc même si je suis très libre dans le choix des films, il y a quand même des lignes un petit peu directrices qui sont données. Et ensuite, c'est là on est donc c'est un cinéma avec trois projectionnistes qui sont aussi projectionnistes caissiers, polyvalents, qui font aussi un peu de compta. Enfin, on est sur certains aspects, c'est vrai que ça fait un peu penser à un cinéma associatif. Et on a tous notre mot à dire, en fait. C'est vrai que, voilà, moi, j'essaye de choisir les films en fonction de l'actualité ou de mes envies. Donc, là, en l'occurrence, le Bollywood. Mais ensuite, on essaie quand même de faire le programme à 8 mains pour essayer de... Voilà, de coller au mieux à l'actualité. Encore une fois, moi j'arrive, je connais pas encore tout à fait le public de Colomiers et des fois ça peut arriver que les projectionnistes me disent oula, non, ça non.
D'accord. Du sport peut-être, une question pour Marie. Tout surpris et tout préparé, la chronique TV tout à l'heure.
Non, mais je suis étonné d'ailleurs de la programmation. Justement, on parlait de Bollywood avant, et puis il se trouve que je m'intéresse aussi un petit peu à la question. Et là, je me suis renseigné vite fait sur Savaria, le film que tu as programmé. Et j'ai appris quand même que bon, les deux acteurs, l'acteur et l'actrice principale et tout, sont les descendants d'une des premières familles du cinéma indien, la famille Kapoor, ouais. Qui œuvrait déjà dans les années 30-40, et puis
je
qui a fait
que
une génération.
Hein, ouais, j'ai vu le nom, ça m'a fait tilt de suite.
Ouais, mais par contre,
si t'es allé vérifier sur internet là juste après.
Non, mais par contre, il y a également Salman Khan qui joue dans ce film, qui ouais. est plus un habitué de, on va dire, du Bollywood de genre entre guillemets quoi. Et ouais. Là, ça peut être assez rigolo de toute façon quoi. Et tu as raison, hein, c'est le format court, là 2h20, ça va, ça se laisse.
Ah oui, moi les gens qui me disent que c'est trop long, je leur dis que c'est quand même 5 minutes de moins que les petits mouchoirs.
Ouais. Non, mais bon, souvent ce qui gêne, enfin moi j'ai déjà remarqué, ce qui gênait les Occidentaux en ce qui concerne les films de Bollywood et tout, et ce qui fait durer en fait les films, c'est l'alternance de scènes filmées et de comédies musicales, c'est-à-dire les morceaux qui sont les traditionnels d'un Bollywood et tout. Là, bon, souvent les gens, c'est ce qu'il est, en parlant un petit peu crûment, les fait chier quoi, dans le film, ils préfèrent les films traditionnels, donc l'action et puis pas d'interruption musicale, alors que c'est vraiment la tradition et puis que c'est vraiment. Maintenant, on peut dire, enfin, ça fait quand même des années que ces numéros ont été super travaillés et qu'on a droit à des trucs de chorégraphie et même à des orchestrations, je veux dire, qui sont modernes. Hein, c'est de la musique moderne, dubstep, on a tous les styles modernes qui sont représentés dans la musique dans les Bollywood actuellement. Et les chorégraphies, ben, elles n'ont pas à rougir par rapport à certaines productions américaines qui se veulent vraiment voilà. Dance jeunes dans le vent. Quoi.
Et, surtout bon, surtout qui commencent à avoir le même budget que la plupart des films européens.
Ouais, non, mais même justement, bon, il y a une habitude qui est tellement énorme du côté de Bollywood et la façon qu'ils ont de tourner que eux, ils arrivent à faire maintenant des trucs super bien. C'est vrai, maintenant, ils commencent à avoir des super productions, mais même quand ce sont des super productions, ça reste en deçà au niveau budget. Mais alors bon, ça, c'est 10 fois moins, 15 fois moins, 20 fois moins qu'un film équivalent réalisé de l'autre côté du Pacifique. Donc, c'est pas exactement la même chose quand même.
Hein. En tout cas, si tu veux faire plaisir à du sport, il faut absolument que tu programmes un film avec Shah Rukh Khan.
Voilà. La famille c'est indienne.
Ouais, bah justement, c'est programmé à la télé, j'allais en parler après. Donc, il n'y a pas de problème.
Après, il est 12h30.
Ça, c'est ma claque Bollywood, la famille indienne.
Ah bon Il est 12h37 sur Radio FMR 89.1. Vous écoutez le Supplément Week-end. Marie, tu restes avec nous, je suppose, ou tu as quelque chose de prévu?
Non, pour le moment.
Bah, alors, installe-toi bien, prends du fruit s'il le faut et tout ça. On va, puisqu'on revient en arrière d'une semaine pour revenir à Angoulême.
Ah oui, c'est vrai, il y avait Angoulême la semaine dernière. Pardon.
Deceptagone, documentary extrait de son album Big Black Bang Holes. I'm Septagon, extrait de l'album Big Black Bang Holes Documentary. Et plus d'informations sur le festival Made in Asia sur le site festivalmadeinasia.com, sans accent ni tiré, Festival Made in Asia. Et donc c'est jusqu'au 20 février sur Toulouse et sa banlieue. Thomas ?
Oui, Xavier.
Tu es revenu de nos contrées charentoises.
Charentaise.
Non, charentaise, c'est ce que tu portes au pied.
C'est vrai.
Alors, j'ai essayé de faire une vanne, d'accord.
Ah non. Je suis revenu imbibé de Pinot des Charentes. Je vous ai ramené une petite interview audio, puisque traditionnellement, depuis 3 ans, nous diffusons une émission spéciale en direct du supplément week-end en direct d'Angoulême, où nous remettons justement le prix Actua BD Conseil Général de Charente.
Puisqu'on est avec nos amis et collaborateurs d'Actua BD, mais surtout grâce au Conseil Général de la Charente qui nous accueille avec un immense plaisir,
voilà,
et un très grand sourire. Ça nous fait à chaque fois chaud au cœur. Et là, cette année, ça n'a pas pu se faire. Néanmoins,
nous avons quand même réussi à... J'ai réussi à enregistrer l'interview de nos 5 jeunes élus qui ont dû dépatouiller 5 albums présélectionnés par la rédaction d'actuabd.com. Donc nous allons rappeler les albums en question. Donc il s'agissait de Zombilenium, du Royaume, de Ernest et Rebecca, de Freak Squill et de Black Sad. Voilà, donc nous avions déjà parlé dans cette émission cette présélection de 5 albums, donc c'était pour un public jeune. Et nous avons encore une fois été reçus au sein du Conseil Général de Charente samedi matin pour interviewer des jeunes élus qui ont justement élu un album en particulier, donc ils vont le dire dans l'interview. Et il y avait également la participation de Didier Passamonique, rédacteur adjoint, éditeur adjoint d'actuabd.com, de Nicolas Anspach, rédacteur en chef. Et c'est ainsi que nous avons pu faire un petit sujet bien sympa.
Et chaque année, on est surpris des réponses assez spontanées et fraîches que nous font les membres du jury. Là, bon, j'ai remonté l'interview et tout ça. Et c'est vrai que c'est une grande surprise.
Voilà, donc on rappelle le principe. Donc ce sont des jeunes élus du Conseil Général de Charente qui débattent pour essayer d'améliorer les conditions des collèges, etc. Ils sont plus que 5, donc il y a un appel à volontariat et il y a ensuite un tirage au sort pour désigner un jury de 5 élus. Et donc c'est ce jury que je suis allé interviewer samedi dernier.
Et t'as découvert combien des fois pourquoi je suis obligé de tenir un bras avec l'autre?
Alors sur les interviews les plus courtes, ça se voit pas trop, mais sur les plus longues, je comprends pas comment tu n'as plus de bras.
C'est de la muscu, coco, de la muscu.
Ah.
Enregistré la semaine dernière, samedi dernier donc, 29 janvier à Angoulême, donc le jury du prix du Conseil Général des Jeunes de la Charente, Actua BD.
Alors nous sommes le samedi 29 janvier 2011 en direct du Conseil Général de Charente avec les jeunes élus du Conseil Général de Charente. Déjà on va vous demander de vous présenter un peu tous les 5.
Bonjour, je m'appelle Riyad Belkir.
Bonjour, je m'appelle Samuel Woodhams.
Bonjour, je m'appelle Brouillard Mélissa.
Bonjour, je m'appelle Deplan Eva.
Bonjour, je m'appelle Guigny Vincent.
Alors, si on vous a au micro du supplément week-end, c'est parce que vous venez de délibérer pour attribuer le prix Actua BD Conseil Général des Jeunes de Charente 2011. Nous avions, avec toute l'équipe d'actuabd.com, présélectionné une liste de 5 titres. Nous allons rappeler, avant d'annoncer le Grand Prix, donc il y avait Zombilenium d'Arthur Depin chez Dupuis, Freak Squill de Florent Maudou chez Ankama, Le Royaume, tome 2, donc ça c'était, donc on n'a pas la liste sous les yeux, On avait Le Royaume, on avait Black Sad, tome 4, et nous avions Ernest et Rebecca, c'était le tome 3 de Guillaume Bianco. Est-ce qu'on peut déjà faire un petit commentaire sur la liste des 5 albums présélectionnés? Alors Didier Passamonique.
Voilà, je suis Didier Passamonique, je suis éditeur adjoint d'ActuaBD.com. Oui, c'était une présélection nécessaire parce qu'il sort chaque année plus de 5000 albums de BD en France, donc on n'allait pas envoyer 5000 albums à nos membres du jury et donc on a essayé de faire un choix qui soit le plus éclectique possible, le plus avec le plus de sensibilité et artistique et scénaristique et qui en même temps correspondent à ce que les jeunes de cet âge-là peuvent lire, et donc voilà comment on a fait le choix.
Mais on va pas attendre plus pour annoncer le prix, donc qui veut s'en charger?
Alors le vainqueur du prix ActuaBD, on a choisi Freaks Squill de Florent Mondou.
Et je crois que vous avez tenu à récompenser une bande dessinée supplémentaire.
Oui, comme coup de cœur, on a choisi Zombie Millennium de Arthur Depin.
Alors pourquoi ce choix?
Quoi, pour le coup de cœur ou pour...
Pour les deux.
Pour les deux. Alors pour Freaks Squill, on s'est dit que, en majorité, on s'est dit que c'était une bonne histoire et que c'était très intéressant et pas... universellement, on a dit qu'on aime bien. Et pour le coup de cœur, Zombie Millennium, c'est que c'était vraiment une histoire avec quoi on pouvait s'accrocher et bien lire.
Est-ce que ces deux albums que vous avez primés, vous seriez allé vers eux naturellement si vous n'aviez pas eu cette présélection? Est-ce que ce sont deux univers qui vous parlent?
Oui, beaucoup, oui. Parce que je pense que c'était un très bon choix de la BD. Je pense que parce que vraiment, c'est des livres qui sont vraiment faits pour notre âge. Les adolescents, pour ça, c'est pas trop jeune, pas trop vieux, c'est très now. C'est très récent, quoi.
Un petit commentaire, Didier ou Thierry Lemaire d'ActuaBD, sur le choix de nos jeunes élus.
Oui, moi je voudrais poser une question. Le fait que Frisquill soit un petit peu, comment on pourrait dire, trash avec des zombies et des trucs comme ça, est-ce que ça a été un facteur d'attraction particulier? Ça, c'est ma première question. Et deuxième question. Il y a 3 garçons, 2 filles. Est-ce que c'était la bataille rangée entre les filles et les garçons? Est-ce que vous avez des choix totalement différents?
Au niveau des choix filles-garçons, il n'y avait pas tellement de clans. Enfin, au niveau des filles-garçons, on est tous un peu choisis même BD. Donc, sinon, pour Frisquill, le côté zombie et tout, c'est un peu joué, mais pas tellement non plus. C'était surtout l'histoire qui était intéressante. Donc,
Qui veut parler en plus?
On peut dire par rapport à Zombie Millennium, en fait, un truc qui nous a intéressé un peu, c'est que ça se passait en France. Alors la location et tout, on pouvait se comparer. Et puis c'était, là aussi, il y avait des zombies, des monstres et tout dedans. C'était accrochant, on va dire.
Est-ce que vous avez déjà prévu ce que vous allez, parce que vous allez, on va organiser une rencontre avec l'auteur, vous allez lui annoncer qu'il a gagné le prix. Est-ce que vous avez déjà prévu des questions à lui poser? Est-ce que vous avez une sensibilité par rapport aux bandes dessinées? Est-ce que ça vous donne envie de créer des bandes dessinées? Toi, tu avais fait un oui-oui de la tête.
Oui, ça donne envie de les lire, de faire des dessins, d'écrire une BD, lire ce livre. Moi, ça m'a plu, donc. J'avais envie de dessiner, ça m'a inspiré et si je devais poser une question, c'est pourquoi avoir choisi une histoire dans ce genre?
Donc comme vous savez, le prix ActuaBD est associé au Général des Jeunes, vous êtes élu du Conseil Général des Jeunes. Est-ce que vous regardez les BD avec un regard d'élu, c'est-à-dire avec une responsabilité en vous disant, est-ce qu'il y a des BD qui peuvent être choquantes, qui méritent d'être publiées ou pas? Est-ce que ça vous concerne, ce genre de réflexion?
Je sais pas si c'est exactement ce que vous voulez dire, mais par exemple, en étant élu, on s'est dit qu'il fallait faire vraiment un choix qui est global et pas que pour nous. Par exemple, il y a certaines personnes qui aimeront une BD et après, mais après, on pourrait plutôt se diriger vers une autre BD parce que les autres jurés l'aiment bien en fait. Alors, c'est ouais, bah oui, mais c'est. Après, je sais pas quoi dire.
Non.
C'est un choix citoyen, quoi.
Oui.
Que pour nous, on a choisi pour les goûts de tout le monde et pas que pour nos goûts à nous.
Thierry Lemaire, ActuaBD.
Oui, Thierry Lemaire, bonjour. Moi, je voulais savoir si vous étiez des gros lecteurs de bande dessinée et si vous aviez été, vous étiez proposé pour ce prix, vous aviez été choisi par rapport à vos lectures, par rapport à votre, je sais pas, peut-être vous avez une grosse BD tech chez vous ou pas du tout. Comment ça s'est fait ça?
Non, moi, je suis pas un grand lecteur de BD. J'aime lire, mais bon, les BD, c'est pas ma passion. Puis c'est Freaks, ça m'a plu parce que voilà. Et Zombilenium, ça m'a plu au niveau du langage, puis de l'illustration, puis voilà.
Bon, pareil, je suis pas une très grande lectrice de BD, mais c'est vrai qu'on a été tiré au sort et tout, ça m'a quand même plu. Et bon, lire des BD, ça me plaît quand même, j'aime bien lire. Et sinon, c'était bien. Enfin, je sais pas, j'ai bien aimé.
Est-ce que vous avez fait lire cette présélection à vos parents? Et qu'est-ce qu'ils en ont pensé, si c'est le cas?
J'ai pas fait lire à mes parents, car ils sont anglais. Mes parents, ils auraient rien compris. Mais j'ai fait lire à ma sœur certaines BD, bien aimé. Oui.
Est-ce que vous avez été influencé par vos entourages?
Sinon, j'ai fait lire Frisquet, j'ai fait lire le premier tome à une amie parce qu'on était en études et je lui avais prêté. Elle m'avait dit qu'elle trouvait l'histoire vraiment intéressante et tout, donc en même temps, ça a un peu fait pour choisir aussi que ça plaisait à d'autres personnes et pas qu'à nous.
Nicolas ?
Oui, Nicolas, c'est pas que toi BD. J'ai une bête petite question, ce sont deux histoires de zombies. Alors l'année 2011 sera-t-il marquée par les zombies ? C'est la nouvelle tendance ou...
L'un des deux albums, c'est plutôt super-héros, mais il y a aussi des créatures louches.
On a choisi Zombilenium, c'est par rapport au langage, c'est fait pour moi en fait. Je retrouve ce qu'a dit Sam, c'est notre âge en fait. C'est, voilà.
Et les références à Michael Jackson, les petits clins d'œil dans ces deux bandes dessinées qui sont très référencées aussi. Est-ce que ça vous parle ou est-ce que
Oui, un peu.
Je sais pas. Par exemple, quand j'ai lu Freaks, j'allais pas exactement aller sur YouTube pour regarder des thrillers de Michael Jackson, mais je sais pas. C'est vrai parce qu'en ce moment, vraiment, il y a beaucoup de zombies, des films et tout. Alors c'est bien de reporter dans les BD, en fait.
C'est fantastique, c'est un peu des histoires fantastiques, avec des zombies et tout, des trucs qui n'existent pas. Ça fait l'imagination, l'imaginaire. C'est bien.
Alors, vous avez délibéré assez longtemps, quand même. Sur quoi vous avez achoppé qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas été l'unanimité tout de suite?
En fait, c'est qu'au début, pour Freak Squill, on a trouvé que c'était un peu trop gros comme BD, qu'ils auraient dû réduire un petit peu, faire plus de tomes, mais que ce soit moins épais. Et pour Zombilenium, comme c'est une histoire de zombies, un peu d'horreur, mais pas vraiment, on a un peu trouvé que ça aurait été mieux en dessin animé ou en film, mais pas en BD.
Ah, une petite ouverture pour Arthur Dupin, alors.
Et alors, qu'est-ce qui a fait basculer dans un camp comme dans l'autre? Parce qu'un coup de cœur, ça veut toujours dire qu'on a regretté de ne pas donner le prix à ce titre-là. Donc, qu'est-ce qui a fait basculer entre Freakswheel et Zombilenium?
Je dirais que c'est la majorité qui a fait basculer sur Freaks. Et après, on en a longuement parlé. On a beaucoup tourné autour du pot. Puis après, on a cédé pour Freaks parce que l'illustration était belle, l'histoire était intéressante, mais le seul inconvénient, c'est que c'était un peu trop long, quoi.
Sinon, il y avait 3 votes pour Freaks au début et 2 votes pour Zombilenium. Et c'est vrai qu'on a longuement tourné autour du pot, comme il a dit. Et c'est vrai qu'il y avait des pour et des contre. Et on a vraiment parlé pour chercher, pour trouver celle qui serait le mieux.
Eh bien, est-ce que ce sera le mot de la fin?
En tout cas, le mot de la fin. Et là, maintenant, on va aller voir l'auteur. On va lui demander ce qu'il en pense. Vous allez dialoguer avec lui un petit peu.
Eh bien, merci.
Oui. On y va?
Allez, on y va.
Et donc, en direct, oui,
et
c'est
nous,
ça.
Nous y sommes allés et nous l'avons trouvé.
Alors, raconte. Eh bien, raconte, parce que moi, je n'ai eu que ce que tu m'as dit par téléphone après coup en soirée, quoi.
Alors, c'est une information qui ne dira quelque chose qu'à ceux qui connaissent Angoulême. Nous avons pris donc les 5 jeunes élus sous le bras, à toute l'équipe qui aurait bien voulu nous suivre du conseil général, et nous avons descendu la rue RG jusqu'au Bulle. Il a fallu le faire en catastrophe.
Un samedi.
Voilà, donc imaginez.
À côté, le premier samedi des soldes, c'est mort.
Voilà, donc il a fallu redescendre toute la rue RG avec une partie de la foule en contresens. Les jeunes élus se sont aperçus qu'ils n'avaient pas les bons badges, donc il a fallu s'arrêter au bureau du festival pour réclamer les bons badges de la journée. Nous sommes rentrés dans les bulles, et là, toutes les bulles étaient complètement bondées.
sachant que les files de dédicace étaient, étaient prises d'assaut par les chasseurs dans le stand Ankama, et il a fallu donc remettre le prix à Florent Modou, qui en même temps devait tracer parce qu'il avait d'autres obligations. Donc ça a été une séance de dédicace pirate, torpillant. Ouais, et sa propre file de dédicace officielle.
Et puis Florent Modou, d'abord, faut le dire, c'est une, enfin, il a la main sur le cœur, il est adorable. Et c'est pas franchement le public des gens qui vont à ses dédicaces.
Non, c'est plutôt un public de jeunes adultes, ouais. Parce que ces bandes dessinées font appel à des références, pas de geeks, mais de fans de super-héros. Il fait des références à des cinématographies hongkongaises, etc. Donc c'est pas vraiment les plus jeunes. Et alors, déjà, il s'est fait applaudir sur le stand, donc c'était assez sympa. Il a reçu le prix, il a bien voulu souscrire à la séance de photos, donc c'était bien sympa, les jeunes ont eu leur petite dédicace sur leur album, donc tout le monde était content. Ensuite, nous sommes allés nous réfugier avec Didier Passamoni d'Actua BD dans un kebab pour effectuer le direct en duplex de Supplément Weekend, avec un serveur qui venait toutes les 10 minutes nous proposer un coca. Voilà, et ensuite le reste de la journée, ça a été écriture du billet pour nos amis d'Actua BD, ça a été courir la dernière interview que j'avais programmée au festival, et finir en beauté le festival, puisque il se finit un petit peu, la petite mort, c'est un peu samedi soir, puisque dimanche, c'est un peu mort, quoi. C'est
Remise des prix, hein, non, il n'y a plus personne.
Hein. Ouais, remise des prix à 4h. Ouais.
N'importe quoi. Néanmoins, pour le palmarès, parce qu'il est loin d'être inintéressant, on vous renvoie par contre sur Actua BD, parce que ce serait vraiment long de faire le reste du palmarès.
Si vous voulez briller en société, dites juste que c'est l'auteur de Mouse qui a gagné.
Voilà, mais ça on va en parler peut-être un petit peu après de Art Spiegelman, puisque quand même il a une il a pas une grande bibliographie, mais c'est toujours très intéressant, je veux dire, à lire. Parler de claque tout à l'heure, etc. Ben là, c'est la baffe justement pour son œuvre principale, mais il n'a pas fait que ça, heureusement.
En tout cas, nous sommes fiers, puisque le palmarès des jeunes élus de la Charente a récompensé deux albums que nous avions chroniqués au micro de cette émission, ce qui veut dire que c'était le supplément week-end.
Ce qui veut dire qu'on lit pas tout.
Ça veut dire que le supplément week-end a du nez. Ah ah.
Ouais, ça veut dire positive. Qu'on va encore se faire traiter de gamin par le reste de la rédaction, oui. Alors si on parlait justement du Grand Prix de la ville d'Angoulême, qui sera le président du jury l'année prochaine du festival de la bande dessinée, il faudrait peut-être commencer par parler de ses parents. Ses parents sont juifs polonais, rescapés d'Auschwitz, qui ont connu la douloureuse occupation nazie, et craignant les camps soviétiques, eh ben, ils ont émigré vers l'Amérique. C'est en 1948, en chemin, qu'est né Arthur, futur Art Spiegelman. Établi et vivant à New York, il part à San Francisco pour étudier à l'Académie des Arts. Il en ressortira major en art et en philosophie, alors que ses parents auraient préféré qu'il étudie pour devenir dentiste, par exemple, hein. Enfin, un métier honorable, comme on dit. Il se lance dans la bande dessinée en plein pendant la période contestataire. Les États-Unis sont en guerre au Vietnam, la BD Underground se révolte contre la censure castratrice des Comics Code Authority, et les drogues sont le fondement de la culture yéyé. Le jeune Art participe à de nombreux fanzines dans les années 60, plus exactement le comics, avec un X à la fin, pour alternatif et ouvertement sexué, mouvement lancé par Robert Crumb dans la revue Zap. Malheureusement, une consommation de LSD mène Art Spiegelman à une névrose, ce qui le conduit à un, ouvrez les guillemets, stage prolongé, fermez les guillemets, dans un hôpital psychiatrique. Et oui, la drogue, c'est pas franchement ça. Sa mère se suicidera quand il en sortira en 1968, une épreuve qui le marquera durablement. Ses bandes dessinées parleront de délires sexuels, de cauchemars délirants et aussi des camps d'extermination nazis. Une partie des récits qu'il fera durant les années 70 ressortiront compilés sous le nom explicite de Breakdowns, dépression. Dedans, on y trouve un récit qui préfigure Mouse. Entre 1965 et 1987, il est consultant graphiste pour Tops Gum, les cartes à collectionner, notamment de joueurs de baseball et de football américain, mais aussi de différentes modes pour gamins, comme par exemple les Kratos qu'il co-créera dans les années 80.
Quoi, les Kratos, c'est lui ? Oh merde.
Ah ouais, et du coup, attends, je reviens dans les Kratos et... Ah oui, c'est vrai que ça ressemble à des couvertures de New Yorker. Waouh! Mais il faut bien vivre. En 1980, il lance avec sa femme Françoise Mouly la revue Raw, R-A-W, brut en français, qui publie des illustrateurs prometteurs comme Charles Burns ou encore des Européens comme Tardi, Munoz et Joan Swart. C'est dedans qu'il publie en 1986 la version définitive de Mouse, un témoignage de la déportation, de la Shoah et de l'extermination des Juifs vus et vécus par ses parents. C'est justement là la particularité de Mouse, c'est que ça ne raconte pas la Shoah, mais cela raconte un témoignage de la Shoah. L'album est à la fois salué et critiqué. Les Allemands sont vus comme des chats, les Polonais comme des porcs et les Juifs comme des souris. Ce qui n'est pas très bien vu en Europe et encore moins en France. Rappelons que le plus infâme film de propagande vichyste, Le Juif, comparait justement les Juifs avec des rats. Mouse sera la première bande dessinée à obtenir le prix Pulitzer en 1992, bizarrement comme fiction. Je rappelle quand même que c'est une que c'est un récit d'un témoignage, celui de son père. Mais un type également est relativement rare en bande dessinée. En 1994, il adapte The Wild Party, en français La Nuit d'Enfer, roman de Joseph Moncure March, et fait des albums pour enfants. Il se consacre principalement à des illustrations pour la prestigieuse revue The New Yorker, pour laquelle il fera plusieurs couvertures, mais aussi des illustrations intérieures, dont sa femme, Françoise Mouly, est directrice artistique. Il claquera la porte du magazine pour Divergence éditoriale. Le 11 septembre 2011, le reconfronte avec l'horreur, mais cette fois-ci, lui, personnellement. Il vit à deux pas du World Trade Center, et l'école de leur fille est quasiment au pied des tours jumelles. Cette expérience traumatisante, il va en parler à la demande du journal allemand Die Zeit. À l'ombre des tours jumelles, raconte ce qu'il a vécu, ses émois, mais aussi sa critique de la politique américaine, des médias ouvertement va-t-en-guerre, avec moult références aux comics, aux super-héros, au cinéma et aux séries d'action.
C'est à l'ombre des tours mortes, je crois, non ?
Oui, pardon, excuse-moi, j'ai fait une malheureuse traduction.
D'ailleurs, je m'en souviens que tu avais chroniqué cet album et ça me donne envie de le relire, d'ailleurs.
Parce qu'il est vraiment impressionnant. Considéré comme trop critique, son récit sera publié de manière relativement confidentielle aux États-Unis, dans une revue de contre-culture juive, alors qu'il sera publié en Europe, on l'a dit dans Die Zeit, mais aussi chez Casterman en France dans un livre aux dimensions vraiment monumentales. Puisqu'il fait un peu plus que la taille A3, donc c'est dire que c'est un grand bouquin, quoi. Souhaitant exprimer une fois de plus les choix qu'il fait dans les narrations, notamment de son chef-d'œuvre, il dessine actuellement Metamouse, qui devrait sortir aux États-Unis courant été 2011 et dans la foulée en Europe, notamment sur les choix qu'il a fait dans Mouse. Art Spiegelman est donc un auteur plus européen qu'américain, peut-être par le fait que c'est un New-Yorkais, deuxième génération d'immigrants, ou qu'il est un avide lecteur de la BD adulte européen des années 70-80. Il faut dire qu'en France, il a été publié dans À Suivre, dans Métal Hurlant, et dans toutes ses revues ouvertement prévues pour les adultes. S'il est connu pour ses planches crayonnées, on oublie aussi qu'il fait du collage, de la carte à gratter. Et lire ses œuvres n'est jamais linéaire, puisqu'il fait appel directement à la culture du lecteur, mais aussi à son intelligence, car l'ordre chronologique n'est jamais forcément celle de la narration. C'est du flashback ou du flash forward, c'est-à-dire on voit largement en avant ce qui va se passer par la suite. Pour un grand prix qui a été trop peu souvent remis à des auteurs non français, puisque seulement 8 ne l'ont pas eu depuis 1974, c'est pas beaucoup. Il succède au précédent américain Will Eisner en 1974 et Robert Crumb en 1999. Ah bah tiens, quelqu'un qui connaît bien, puisque Robert Crumb a fondé la revue Zap.
Oui, alors ça a failli être Manara.
Ça, c'est les histoires. Il y a eu aussi un bruit comme quoi ça allait être un certain J.C. Jésus-Christ menu.
Non, mais Mana, bon. Parce que Trondheim a fait
ça. C'est tout le jeu du festival d'Angoulême.
Oui,
c'est
mais qui va l'avoir. Sauf que Trondheim, en tant qu'ancien président, a participé aux délibérations pour élire le nouveau Grand Prix de la ville d'Angoulême et il a mis ça en dessin. Et alors, ça a été décrypté par Nicolas Anspach sur actualbd.com. Dans son strip BD, il y a, alors comme il représente tout le monde en animal, donc il faut essayer de lire entre les lignes. Donc c'est un vieux crouton qui dit je vote pour Manara. C'est lui qui dessine les plus belles femmes. Et Trondheim lui répond oui, c'est vrai, c'est un excellent dessinateur de vagin.
C'est vous dire. Enfin bon, ça voilà, c'est le discours interne. Hein,
voilà.
Mais on le sait parfaitement, c'est véridique.
Voilà. Et si on lit entre les lignes, on peut identifier le vieux crouton, c'est Wolinski.
C'est sympa, d'accord. Donc, Art Spiegelman sera donc le président prochain président de pour la prochaine édition, voilà, en janvier. Ça vous laisse le temps de lire Mouse si vous ne l'avez pas lu, parce que on parle de claque et tout ça, c'est vraiment une baffe monstrueuse et il faut avoir le cœur bien accroché avant de commencer à le lire. Vous êtes prévenus. Et À l'ombre des tours mortes, qui là est un très grand bouquin qui à mon avis va être réédité, ce sera l'occasion. Donc c'est chez Flammarion pour Mouse et chez Casterman pour À l'ombre des tours mortes, ce qui vaut vraiment le coup. 13h05 sur Radio FMR, j'ai oublié de lancer les bips, et du sport tu me fais chier là.
On va juste poser une question à Marie qui commence à s'endormir. Et toi, est-ce que tu as un rapport avec la bande dessinée particulier ? Est-ce que tu lis des bandes dessinées ou...
J'avoue que je m'y mets de plus en plus depuis que je fréquente mes collègues de Colomiers.
Oui.
Parce que c'est vrai qu'on baigne dedans toute l'année. La préparation du d'une édition commence avant que se déroule celle de l'année en cours. C'est-à-dire qu'en septembre 2010, on commençait déjà à parler de l'édition 2011. Donc voilà, non, on en parle vraiment toute l'année et donc j'avoue je m'y mets. Je lis quelques bandes dessinées occasionnellement, mais là je commence à essayer de gratter un petit peu plus et je fais des petites découvertes. Là en l'occurrence la dernière, je crois, c'était Quartier lointain qui justement sortait au cinéma.
De Taniguchi, voilà.
Taniguchi qui a été adapté au cinéma.
Prochainement.
Avec Pascal Grégory.
Exact.
La bande dessinée, je crois que d'ailleurs le comics a préexisté, l'adaptation en comics a existé avant l'adaptation au cinéma. 007. Shirley Bassey, Diamonds Are Forever. Le remix par Mantronix. En hommage, mais ça c'est Dus qui va en parler tout à l'heure.
Diamonds are forever. They are all I need to please me. They can stimulate to tease me. They won't leave in the night. I've no fear that they might desert me. Diamonds are forever. And
Shirley Bassey, qui a été l'une des grandes voix, l'une, puisqu'il y en a eu plusieurs autour de la saga James Bond, mais il n'y a pas que ça, et vous l'apprendrez en cours de la chronique de Du Sport. C'est le supplément week-end sur 89.1 FMR.
Je crois que je peux juste te dire que Shirley Bassey, je crois que c'est la seule qui a fait deux films différents, c'est-à-dire qui a fait deux fois un générique différent dans les James Bond, dans la longue liste qu'il y a eu.
Goldfinger et Diamonds Are Forever.
En parlant de James Bond, juste avant d'en parler, on va libérer notre invité.
Tu veux parler de James Bond?
Donc merci Marie d'être venue.
Bah, merci à vous pour votre accueil.
Tu es la bienvenue. Voilà, si et tu puis, souhaites repasser.
Ouais. Et puis on essaiera d'aller voir les quelques films présentés.
Ouais, on vous attend sans problème.
Parfait.
Bah, merci beaucoup.
En tout cas, merci d'être venu. Duce, ma foi, je crois que tu as encore. On reste dans l'Asie.
Je me suis dit, comme je t'ai dit au téléphone, il n'y a pas de problème. C'est le Made in Asia Festival spécial Corée. Donc, on va voir s'il y a des films coréens à la télé ou des trucs coréens à la télé pendant la semaine. Et en même temps. Je pensais, en même temps que je te disais ça, je me disais, de toute façon, vu ce qu'il y a à la télé et tout, t'en fais pas, ça va être vite vu, vite réglé.
Eh ben non, en fait.
Ça va me faire des vacances. Eh ben, ouais, grosso modo, j'ai quand même un petit peu étoffé, quoi. Non, il n'y a pas vraiment grand-chose comme d'habitude.
C'est un peu dommage, d'ailleurs, parce qu'ils ont une industrie de la série télé en Corée qui ne s'arrête jamais et qui est assez vivace.
Non, mais le truc, c'est que, les films programmés sont aussi des films de genre, on va dire, hein, donc qui participent à la vague du cinéma d'action asiatique, donc, et le reste de la production, hein, t'en parlais un petit peu avant, hein, des deux côtés du cinéma, oui, avec Park Chan-wook et Kim Ki-duk. Kim Ki-duk, qui d'ailleurs, je crois, il est plus vieux, hein, que Park Chan-wook, il est déjà connu avant Park Chan-wook. Donc, et ce qui fait que bon, y a pas grand chose de toute façon. Sinon, ça commence ce soir, Into the Fire de John Lee avec Cho Sung-won, Kwam Sang-yo et Choi Sang-yeon. Tu vois, j'y arrive pratiquement. Un film de très récent, de l'année dernière, 2010, donc Into the Fire, mais ce n'est pas un film de pompier, hein, c'est un film de gangster, de policier. Sinon, ce soir, sur Orange Ciné-Choc, il y a également Paprika de Satoshi Kon.
Oui, le regretter.
Le regretter, voilà. Ce n'est pas un film de cuisine.
Il y aura d'ailleurs un hommage à Satoshi Kon à la Chibi Japan Expo prochainement. Là.
Et c'est tout pour ce qui est les trucs asiatiques aujourd'hui. Demain.
D'accord, c'était les vacances.
Je te jure. Hein, demain, sur la chaîne Action, Dragon Squad, Hong Kong, donc Daniel Lee, Sammo Hung, Simon Yam et Michael Biehn.
Ah, ça c'est où ça?
C'est demain sur la chaîne Action à 20h40. Sinon, demain sur le Ciné Club, et en plus pour une fois le Ciné Club il commence avant minuit sur France 3. Et en plus c'est un film qui tue de la mort, que c'est un chef-d'œuvre, presque un chef-d'œuvre. L'enfer est à lui, White Heat de Raoul Walsh avec James Cagney dans un de ses meilleurs rôles, Virginia Mayo, Edmund O'Brien, Steve Cochran, je te jure et tout. Et des scènes qui ont été piquées après par d'autres films et tout, qui sont devenus vachement célèbres et qui ont fait vachement plus de pognon. Et que bon, ça fait chier quoi, mais bon, c'est comme ça. Mais en tout cas, c'est un des chefs-d'œuvre du polar américain. C'est demain soir sur France 3, donc dans le Ciné Club. Lundi sur Paris Première, alors ils ont arrêté la veine des films de prison de femmes philippins. Plus Foxy Brown lundi dernier, donc toujours Pam Grier et sa poitrine magnifique, ainsi que c'est tout quoi. Et là, on n'exploite toujours la même veine, c'est-à-dire le moins 16 à la télé avec Salon Kitty, le film de Tinto Brass en 76, avec un casting que tu tombes sur le cul parce que tu dis qu'est-ce qu'ils sont venus foutre dans cette galère. Ingrid Tulin, qui était plutôt du côté Bergman, on va dire. Helmut Berger, lui, qui a tourné un petit peu avec n'importe qui, surtout avec Visconti. Teresa Anne Savoy, qui allait retrouver Tinto Brass dans le Caligula. Et John Steiner. C'est un des classiques du cinéma érotique, on va dire. Italo-allemand, avec une petite dose de nazisme comme ça et tout, ça se passe juste avant la guerre et tout. Tu vois, genre quoi. Tout ce qu'on aime.
Lundi, oui, de genre.
Sur la chaîne Action à 20h40, Dragon Tiger Gate de Wilson
Nipper. Oh, qu'est-ce que c'est pourri.
C'est pourri. C'est pourri et ce sera peut-être moins pourri, mais c'est le numéro 2. Mais Takashi Miike, il a l'habitude de faire des trucs en plusieurs. C'est Crow Zero 2. Zero numéro 1, c'était la semaine dernière. Donc c'est sur Orange Ciné Choc lundi à 18h20, suivi de Apple Seed à 20h40 de Shinji Aramaki. Et ça sonne, donc il y a quelqu'un qui est dehors à la porte, et à 22h20, X1999, un autre animé de Rin Taro en 1999. Sinon, lundi également sur Cuisine TV, il y a la Chine de Kili Kwang avec un spécial Shanghai. Et à 22h21h30, toujours sur Cuisine TV, nouilles chinoises et bouchées vapeur. Et sur Ushuaïa, c'est peut-être le meilleur choix de lundi prochain, 20h40, Keke Xili de Lu Chuan avec Dua Bougie et Lei Zhang, une histoire de braconnier dans l'Himalaya qui chasse des antilopes de l'Himalaya. Et sur France O, là, bon, à ne pas louper de toute façon, c'est une famille indienne. C'est lundi, donc, un vrai Bollywood, 3h30, c'est de 40 joueurs en 2001, avec le patriarche Amitabh Bachchan, le père d'Abhishek, qui est marié avec Aishwarya Rai, qui s'appelle Rai Bachchan, maintenant.
C'est dommage que Marie
mais
y a pas écouter que, ça.
Mais il n'y a pas que Bachchan.
On l'a libéré trop
mais tôt. Mais il n'y a pas qu'Amitabh. Il n'y a pas qu'Amitabh, qui joue le rôle du patriarche, bien sûr. Mais il y a également Shah Rukh Khan, Hrithik Roshan, qu'on a vu de Jugda Akbar, et Kareena Kapoor. Mardi sur Canal Plus Cinéma.
Je tiens à remarquer quand même que tu as oublié de... Tu laisses à la porte tes assistantes, c'est pas bien.
Mais non, mais je lui ai dit que le code avait changé.
C'est, on est pourtant en début du mois, faut mettre à jour le
décodeur. Mardi, Canal Plus vous propose Ninja Assassin de James McTeague, le mec qui a fait V pour Vendetta avec Randall Duke Kim, Sang Kang, Rick Yoon et Naomi Harris. Il y a également Accident de Soi Chang avec Louis Co, Richie Ren, Michel Yeh et Lam Sweat. Ça, c'est juste après Ninja Assassin. Ou sinon, sur Orange Cinéchoc, Lomu Beautiful Dreamer, un Mamoru Oshii de 1984.
Si je me souviens bien, c'est un film, c'est un ange avec un œuf, et c'est super, 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 super.
Comment tu dis que ça s'appelle?
Si tu le dis.
Comment tu dis que ça s'appelle?
Ça s'appelle Lamu Beautiful Dreamer.
Oui, c'est ça.
Non, Lamu Beautiful. Non, je pense
que non, pardon, pas du tout. Pardon, il s'agit c'est un autre.
Il s'agit
autre.
Du film d'animation de Mamoru Oshii sur le personnage de Lamu qui passait au Club Dorothée. Et c'est un OAV. Je ne l'ai pas vu, mais paraît-il, qui aurait inspiré au film The Groundhog Day, donc Un jour sans fin,
ouais.
Le principe de la journée en boucle.
D'accord.
Sauf que moi, j'ai notre ami Sébastien, qui est déjà venu dans cette émission, nous a certifié que c'était un mix entre Lamu et le film, les films super contemplatifs de Oshii. Donc c'était un mix complètement improbable, mais à voir.
C'est sur Orange Cinéchoc mardi prochain. Ça, 20h40.
Lamu, le nom français d'ailleurs, c'était ça avait un autre nom, oui.
Je sais plus. Bah, c'est la fille en bikini avec
tu vois, le bikini à chaque fois en tigre. Et tout, puis ils prennent la parole et puis bon, tac tac.
C'est l'extraterrestre, Lamu.
Oui, oui. Après, on arrive à déborder.
Enfin, le truc complètement délirant et tout.
Toujours la même chose.
Voilà, vous êtes en stéréo sur FMR.
En plus, ouais. Mercredi, La Dame de Shanghai. Mais ça, c'est pas un film asiatique, mais c'est un film d'Orson Welles avec Orson Welles, Rita Hayworth et Everett Sloan. Mais c'est un des grands films d'Orson Welles. Mercredi également, ça c'est sur TCM, La Dame de Shanghai. Sur Sifi, Carnage en haute mer. Ça, ça a rien à voir avec l'asiatique, mais il y a Corinne Nemec dedans. Donc, c'est pour ça qu'on en parle. Sur Cinéma Premier à 20h40 mercredi prochain, Shaolin Basket de Chen Yupeng avec Jay Chou qu'on a découvert un peu plus tard dans The Green Hornet.
Keto.
Et il y a également les frangins Tsang, Eric et Kenneth, ainsi que Charlene Chong.
Ouais, mais il est très mauvais, hein. C'est vraiment un film. Vraiment un film, c'est Shaolin Soccer a marché, on fait la même chose.
Ouais, on préfère nettement Baseball, Junkie, je sais pas, les zombies.
Battlefield Baseball,
avec qui est vachement mieux quand même.
Ouais. Il est très très bon celui-là.
Sinon, sur Orange Cinéchoc, mercredi prochain, Steam Boy de Otomo à 18h35 et Vex. Merci de Fumihiko Sori 2000 à 20h40. On termine avec c'était jeudi, et on termine avec vendredi sur Ciné Cinéma Famise, Kung Pao Enter the Fist, un film complètement légendé de Steve Udekerk, le mec qui a fait La Ferme en Folie un peu plus tard et tout, et là c'est avec Lung Fei, Jennifer Tung, c'est une parodie bien balourde et tout, et à destination des plus jeunes d'entre nous, mais ça peut quand même se regarder souvent. Sinon, sur les trois oranges vendredi prochain, Cinémax, Le Dernier Samouraï d'Edward Zwick, donc ça n'a rien à voir, laisse tomber et tout quoi, laisse tomber quoi. Orange Cinéchoc vendredi prochain 20h40, Cowboy Bebop, que il paraît que c'est pas bien, de Watanabe.
Mais il se met, attention, juste avant les deux derniers épisodes de la série.
Et il vaut vraiment le coup parce que c'est vraiment un épisode long et toujours la bande son originale de Yoko Kanno qui est magnifique.
Eh ben, si tu le dis. Et on termine avec Orange Ciné Novo qui programme vendredi prochain. Et là, c'est pour avoir une caution, le numéro 14 du CD numéro 1, pour avoir une caution cinéma ARS, L'Amant de Jean-Jacques Hano avec Jane Marsh et Tony Leung. Alors c'est pour ça, hein, ouais, bah oui, en plus ça se passe là-bas. Donc ça c'est Ciné Novo la semaine prochaine à 20h40. Allez, un morceau de musique avant de parler de sport, et c'est John Barry qui interprète d'ailleurs The Girl with the Sun in Her Hair, morceau de 1967.
Et à l'époque, il était avec Jane Birkin, donc.
Ouais.
C'est elle, la fille. Elle était toute jeune.
Et c'est une musique qui a également servi de musique de pub pour Sunsilk. Ouais, facile.
Voilà.
Facile.
Et juste donc pour dire donc que John Barry nous a quittés. Et que il y aura une intégrale John Barry, il y aura un sujet sur John Barry, non pas pendant l'heure musicale ou du sport qui commence dans 40 minutes, mais à 15h.
À 15h dans Dirty Dancing, hein, l'émission tous les 15 jours sur Radio FMR qui vous passe des musiques de films. Ben voilà, c'est le concept de l'émission. Ah, nous on s'écoute John Barry.
John Barry, The Girl with the Sun in the Air. Et ben maintenant, on te souhaite de jouer bien de la harpe là-haut et pas que pour des agents secrets. C'était donc le supplément week-end. On va juste faire un rappel très rapide. Le Festival des Cultures d'Asie, le Made in Asia, qui en est donc à sa 4e édition. C'est jusqu'au 20 février sur Toulouse et tous les jours sur Radio FMR dans le créneau horaire des programmes cultureux impromptus. C'est-à-dire entre midi et 13h tous les jours. Et ben, il y aura un sujet là-dessus sur le cinéma, sur donc aussi le pain de souris, sur le chant traditionnel sud-coréen et plein d'autres choses. Notamment sur la cuisine, sur la médecine traditionnelle, le nouveau cirque du Vietnam et aussi de l'art contemporain qui a lieu Donc en ce moment, venu en importer, si je puis dire, d'Asie. Thomas.
Oui.
Donc les programmes qui ont lieu au cinéma, le Central, à Colomiers, si tu peux peut-être parler de ce qu'il y a, si tu l'as noté normalement.
Alors, dans le cas de Medinazia, on est bien d'accord.
Oui, tout à fait. Pardon.
Alors oui, nous allons rappeler les références des trois films dont nous parlions tout à l'heure. Donc il s'agissait de Marie Yagi, un film d'animation sud-coréen de Lee Chung-gang qui est sorti en 2002 et c'est pour tout public, les plus jeunes à partir de 6 ans. Film qui dure 1h26, donc qui a été primé à Annecy en 2002 au moment de sa sortie. Nous avons également Sawaria de Sanjay Leela Bhansali, qui est un film bollywoodien, un film indien, donc qui est sorti en 2008, qui fait 2h20, qui est par le réalisateur de Devdas et qui est sorti en France en 2008. Donc si vous aimez le film bollywoodien et en plus la durée est relativement courte de ce film, donc c'est bien pour mettre en premier pied dans cette filmographie abondante. Et le troisième film en question, il s'agit de Destination Himalaya de Jun Sun Il, et ce film est coréen, il est sorti, c'est tout frais, il est sorti en novembre 2010 chez nous, avec Choi Min-sik, le meilleur acteur du monde, celui qu'on pouvait voir dans Oldboy, Lady Vengeance et Ivre de Femme et de Peinture, et c'est un film qui dure 1h35 sud-coréen, si vous aimez les grands espaces et l'Himalaya sur grand écran. Donc voilà, c'est trois films qui entrent dans le cadre de Medinazia au cinéma Le Central à Colomiers. Si vous voulez voir Marie Yagi, la dernière séance est maintenant, là, tout à l'heure, là, incessamment sous peu, alors que les autres sont tout à fait visibles pendant la durée du festival qui se terminera le 20 février.
L'émission aussi se termine, mais Thomas, peux-tu faire, s'il te plaît, un résumé pour ceux qui ont pris notre programme en cours de route? Les petits chenapans, ils ont manqué plein de choses.
Oui, mais je peux vous faire ça de mémoire puisque j'étais trop occupé pour noter quoi que ce soit. Donc nous avions comme invité Marie Vassor, aujourd'hui responsable du cinéma Central de Colomiers, pour nous parler de la programmation de ce cinéma dans le cadre de Medinazia. Nous avions également l'interview des 5 jeunes élus du Conseil Général de la Charente pour nous parler de la remise du prix Actua BD Conseil Général de Charente. Il était question également de la mort de John Barry, de Shirley Bassey et de Jane Birkin. Et cette fabuleuse biographie de Art Spiegelman qui nous a fait tout à l'heure.
Mondain zombie, vous avez manqué tout ça? Heureusement, grâce à la diffusion différée, vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission. Aussi, retrouver nos chroniques écrites sans le bruit désagréable derrière. On est vraiment désolé que c'est la troisième semaine consécutive qu'on a ce problème technique. Fouillez dans nos archives, laissez vos commentaires, posez vos questions. N'hésitez pas, il suffit d'aller sur le site web de l'émission. Supplément Weekend, sans accent ni tiré, Supplément Weekend.fr. Vous écoutez FMR sur 89.1 MHz, nous sommes en direct et en alternance avec Booster FM qui prend l'antenne à partir de 17h et on continue 24-24, 7 jours sur 7 sur www.radio-fmr.net, sur lequel vous retrouvez aussi le stream de la radio. Dans le prochain épisode, une autobiographie cachée d'un dessinateur japonais absolument classique. Ciao, bye bye.